savoir qu'est-ce qui fait tourner le monde. Écoute bien ça. Ok.
Vous écoutez RFI Radio France Internationale, 4h en temps universel, 6h à Paris, 7h à Kiev. Un nouveau journal. Bonjour Marion Kazanov.
Bonjour Vincent Dublange.
Et reportage à Kiev, la capitale ukrainienne, bombardée quotidiennement par la Russie.
Des frappes en particulier sur des centres logistiques, des chaînes d'approvisionnement, mais pour l'instant, on le verra, la population ne souffre pas de pénurie. Les discours de plus en plus radicaux en Israël, à un mois et demi des législatives, l'extrême droite durcit un peu plus le ton, comme le ministre Itamar Ben-Gvir, avec un nouveau plan pour vider Gaza de sa population palestinienne. Et puis les extrêmes droites européennes et américaines réunies au Chili. 5e édition du Forum de Madrid, c'était hier. Les participants se sont réjouis d'une nouvelle ère. Le président ukrainien espère relancer les pourparlers de paix. Volodymyr Zelensky dit attendre la venue des émissaires américains, Jared Kushner et Steve Witkoff, dans les prochains jours. Nous avons reçu une confirmation, dit-il. Ils tiendront des réunions à Moscou et Kiev. Kiev toujours visé par des drones russes, plusieurs blessés hier encore dans la capitale. Un entrepôt de l'Organisation mondiale de la santé a été visé. Ces derniers jours, les chaînes de distribution sont particulièrement ciblées. Pour autant, la population ne constate pas vraiment de pénurie dans les rayons et la population est désormais habituée, comme l'a constaté sur place Emmanuel Chaz.
À Kiev, depuis plus d'une semaine, les frappes russes contre les centres de distribution médicaux, alimentaires ou encore postaux sont devenues quotidiennes. Pourtant, une alerte en cours n'empêche pas Svitlana d'aller faire ses courses. Cette informaticienne a bien remarqué quelques changements dans les rayons, mais elle relativise.
Je me demande toujours s'il va y avoir des pénuries de nourriture, de produits de première nécessité ou de matériaux de construction. Mais pour l'instant, ça ne se ressent pas particulièrement. On trouve de tout en rayon et si quelque chose vient à manquer dans un magasin Silpo, on le trouve dans un autre supermarché. Il y a donc un équilibre pour l'alimentation et les produits de première nécessité. On trouve du lait en poudre pasteurisé, de la lessive, de la crème. Il y a de tout en rayon.
De fait, pour l'instant, on ne peut pas parler de véritable pénurie dans les supermarchés, mais après chaque bombardement, certains produits viennent à manquer. Daria, étudiante, constate.
Mes proches sont inquiets. Moi, pas trop. Je pense que ça ira et que la logistique s'améliore.
Face à ces frappes, les autorités ont annoncé des prêts à taux préférentiel pour la reconstruction des entreprises les plus touchées, ainsi que de nouvelles stratégies de distribution. Mais le temps presse. Chaque jour, de nouveaux centres logistiques disparaissent sous les bombes russes. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et alors que Kiev attend la visite des émissaires américains, Washington reste concentré sur l'Iran. Le vice-président américain a minimisé l'état de la situation. Je n'appellerai pas ça une guerre, il n'y a pas d'échange de tirs en ce moment, selon J.D. Vance. Pourtant, après un mois d'accalmie, les affrontements ont repris dimanche à l'initiative de l'armée américaine. Téhéran frappait hier encore des positions américaines dans le Golfe. L'Iran promet aussi de venger l'attaque qui a fait 4 morts lors d'un mariage. Sur ce point, J.D. Vance annonce l'ouverture d'une enquête, mais se dit sceptique sur la responsabilité américaine et même sur la fiabilité des faits. Enfin, sur le détroit d'Ormuz, il assure que le passage est presque revenu à la normale, des propos qui interviennent à 2 mois des élections de mi-mandat aux États-Unis. En Israël, on votera un peu avant, le 27 octobre, pour les législatives. La campagne électorale est très violente, les sondages sont mauvais pour le camp du Premier ministre Benjamin Netanyahou. La droite et l'extrême droite durcissent leur discours, comme Itamar Ben-Gvir, ministre d'extrême droite, chef du parti Otzma Yehudit, force juive en français. Selon les sondages, il pourrait obtenir entre 6 et 9 sièges sur les 120 que compte la Knesset. Et hier, le candidat a fait de nouveau parler, donc avec un plan pour vider la bande de Gaza de sa population palestinienne. À Jérusalem, Frédéric Misselin.
Le plan de 20 pages vise à faire partir de la bande de Gaza 250 000 palestiniens la première année, 1,8 million en 7 ans. Le parti Otzma Yehudit, force juive, promet à ceux qui le veulent des aides, un logement. Au lieu de creuser des tunnels, il est temps de faire les valises, dit avec violence Itamar Ben-Gvir. Meir. Le chef du parti d'extrême droite est aussi ministre de la Sécurité nationale et tient souvent des propos racistes. Karine Attab, responsable de sa campagne pour la section francophone, assure que personne ne sera obligé à quitter Gaza.
On est évidemment pour que les Gazaouis qui veulent partir de Gaza, de leur propre chef, puissent partir et qu'on puisse les aider à partir. De force, non.
Mais, précise Karine Attab, les Gazaouis n'auront pas le choix.
Il n'y aura peut-être pas assez de place pour eux. Et confirmer notre sécurité et qu'il y ait assez de place pour eux, certainement ce sera compliqué.
Plusieurs pays sont prêts à accueillir ces Palestiniens, affirme Itamar Ben-Gvir, sans préciser lesquels. Le déplacement forcé de populations civiles est un crime de guerre au regard du droit international. Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
Jérusalem qui accueillera bientôt l'ambassade de République démocratique du Congo. Elle se trouvait auparavant à Tel Aviv. La décision a été annoncée hier soir à l'issue d'une rencontre à Jérusalem entre le président congolais Félix Tshisekedi et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La RDC rejoint ainsi un petit groupe de pays, dont les États-Unis, qui ont pris cette mesure symbolique en rupture avec le consensus international. On reparle de ce déménagement d'ambassade, de la portée symbolique de cette décision avec notre grand invité Afrique ce matin, Jason Stearns, directeur de recherche à l'Institut Ebouteli. On en écoute un extrait dans une demi-heure. C'est le rassemblement annuel des extrême droite européenne et américaine, le Forum de Madrid qui s'est tenu hier au Chili, à Santiago. Le président d'extrême droite, José Antonio Kast, a donc accueilli cette cinquième édition. Les participants célébraient cette année une nouvelle ère pour le continent. Après les victoires électorales ces derniers mois de dirigeants de droite et d'extrême droite en Colombie, au Pérou, en Bolivie ou encore au Honduras, à Santiago, la correspondance de Naïla de Rouané.
C'est le président argentin Javier Milei, invité d'honneur, qui a entamé la journée avec un discours où il a appelé à s'unir face à la gauche qu'il considère comme le mal.
La derecha también se tiene que organizar.
La droite doit s'organiser aussi, car si eux ont eu leur international socialiste, nous devons approfondir nos liens d'amitié, notre propre réseau international, dans la région et dans le monde.
Javier Milei a également salué, je le cite, son ami José Antonio Kast, le président chilien qui, lui, a adopté un ton moins véhément que son homologue argentin, mais précise tout de même.
L'Amérique latine vit un profond changement avec de nouveaux leaders. Et si on continue à faire les choses correctement, on arrivera à Managua et à La Havane.
Parmi le public, beaucoup de jeunes comme Rocío, étudiante. Pour elle,
la liberté, c'est le plus important.
Son ami Vicente, lui, défend
la famille, c'est le cœur de nos sociétés.
Quant à Claudio, professeur à l'université, il se réjouit de cette nouvelle scène politique sur le continent.
Selon moi, les tendances de gauche et socialistes ne résolvent pas les problèmes des gens. En revanche, la liberté économique, si, elle permet le développement des peuples.
Au même moment, plusieurs dizaines d'étudiants protestaient dans le centre de la capitale contre la tenue de ce forum d'extrême droite. Naïla de Rouané, Santiago, RFI.
Javier Milei, le président argentin que l'on entendait à l'instant, a aussi durci le ton sur les Malouines. Il a parlé de vent favorable pour la revendication argentine sur ces îles administrées de facto par le Royaume-Uni. Il y a quelques jours, Donald Trump a laissé entendre que la position américaine pourrait changer sur ce différent territorial. Au Brésil, le président de gauche, Lula, demande une enquête impartiale à la Cour suprême. Un scandale de corruption implique un juge de cette cour ainsi que d'autres personnalités politiques. Le juge visé, Alexandre de Moraes, est celui qui avait été en charge du procès ayant conduit à la condamnation de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, pour tentative de coup d'État. Ce scandale éclate à un mois tout juste de la présidentielle, où Lula perd peu à peu son avance dans les sondages face au fils de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro. RFI 5h09 à Niamey, au Niger, toujours aucune nouvelle de Moussa Kaka, le journaliste, directeur de la radio-télévision Sarah Ounia, qui a aussi raconté pendant des années l'actualité du pays sur nos antennes. Il a disparu donc en début de semaine. Il a été vu pour la dernière fois lundi soir, alors qu'il quittait les locaux de son média. Cette disparition inquiète le comité pour la protection des journalistes, le CPJ. Moussa Ngom est le représentant du CPJ pour l'Afrique française. francophone.
Il n'a pas donné signe de vie, il n'a pas réapparu. Et également, les circonstances dans lesquelles il n'a plus été vu sont des circonstances qui ne sont pas ordinaires. Nous sommes très préoccupés par sa disparition, d'autant plus que nous nous réjouissions il y a seulement une semaine de le voir aux côtés de son collègue Ibro Chaibou, qui avait été détenu depuis 10 mois et qui sortait fraîchement de prison. Nous avons également saisi l'Observatoire national de la communication pour essayer d'appuyer les efforts de recherche, mais il n'y a pas encore d'informations concluantes à son sujet. Mais l'appel vraiment que nous voudrions lancer, c'est à l'endroit des autorités nigériennes, les exhorter à tout mettre en œuvre pour que M. Moussa Kaka puisse être retrouvé et qu'il puisse retourner à son travail.
Moussa Ngom du Comité pour la protection des journalistes, il était joint par Magali Lagrange. Les adolescents européens vont-ils eux aussi voir leur accès limité aux réseaux sociaux? C'est en tout cas ce que souhaitent une cinquantaine d'eurodéputés. Ils ont écrit à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour lui demander des mesures similaires. Après le procès retentissant de Meta le mois dernier aux États-Unis, la maison mère de Facebook et Instagram a accepté de payer 17 milliards de dollars et s'est engagée à lutter contre l'addiction à ces réseaux aux États-Unis. Précision à Bruxelles de Pierre Benazet.
Meta s'est engagé à limiter l'utilisation des adolescents à 2 heures par jour, sauf autorisation parentale, et mettra les notifications en veille la nuit, de 22h à 7h, ainsi que plusieurs autres mesures contraignantes que soulignent les députés européens. Selon eux, bien que Meta continue à rejeter toute responsabilité, il s'agit bel et bien d'un aveu. Ils ont donc signé ensemble la lettre envoyée par la députée Stéphanie Yoncourtin.
Meta a enfin reconnu sa culpabilité sur la nocivité des contenus addictifs pour les mineurs de Facebook et d'Instagram. Elle va prendre des engagements et protéger les enfants américains, mais il faudrait peut-être protéger maintenant les enfants européens de la même façon, parce que c'est les mêmes griefs sur lesquels la Commission a conclu qu'il fallait absolument que Meta modifie ses produits sur Facebook et Instagram. Et puis en Europe, on a les outils, mais alors ça marche pas, quoi, on les applique pas. Parce qu'un enfant européen peut être différemment traité qu'un enfant américain, non ?
Pour les députés, il faut arrêter de tergiverser et appliquer immédiatement le règlement européen sur les services numériques afin d'obtenir les mêmes concessions accordées aux États-Unis, avec la menace non seulement d'une nouvelle amende salée, mais aussi celle d'une suspension éventuelle de services en Europe. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Un dernier adieu au public new-yorkais. Le joueur de tennis français Gaël Monfils a tiré sa révérence sous les acclamations à l'US Open il y a quelques heures. À 40 ans, il s'est incliné en 3-7 face à l'américain Lerner Tin au second tour de ce tournoi du Grand Chelem, le dernier donc de sa carrière. L'ancien numéro 6 mondial prendra officiellement sa retraite lors du Masters 1000 de Paris fin octobre. En football, dans le championnat français, Lille passe provisoirement en tête de la Ligue 1 après sa victoire 1-0 contre Toulouse. La troisième journée se poursuit aujourd'hui avec Lyon Auxerre à 17h temps universel, puis PSG Monaco à 19h05 TU. Et en basket, c'est le début aujourd'hui de la Coupe du Monde féminine en Allemagne. Première journée donc des phases de groupe. Les tenantes du titre, les Américaines, affronteront les finalistes du dernier mondial, la Chine. Ce sera à 12h15 temps universel, à noter notamment parmi les rencontres du jour, Japon-Mali. Ce sera à 9h30 TU. Pour l'heure, il est 4h13 en temps universel, 6h13 à Paris. On poursuit ensemble notre tour du monde de l'actualité.
RFI, toute l'actualité,
Marion Cazanov.
Dans la boue et les débris, la recherche de victimes 9 jours après la terrible crue entre le Népal et la Chine. Et l'identification des corps est déjà très compliquée. Reportage dans le sud du Népal à venir. Aux États-Unis, l'inquiétude autour d'un réseau de caméras considéré comme intrusif et liberticide. Face à la polémique, des dizaines de villes ont renoncé à utiliser ce système. Notre invité culture ce matin est l'artiste Horus, qui sera ce soir sur la scène des Francofolies à La Réunion. À suivre également le Conseil Santé, notre tour quotidien dans la playlist RFI, tout cela avant le retour de l'actualité africaine. Le bilan continue de s'alourdir dans l'Himalaya plus d'une semaine après les coulées de boue meurtrières entre le Népal et la région chinoise du Tibet. Près de 1300 morts, plus de 5600 disparus. Ce sont donc des milliers de familles qui recherchent un proche. Beaucoup n'ont plus d'espoir de les retrouver vivants, mais espèrent au moins récupérer leur corps. À 300 km en aval de l'origine des crues, à Bharatpur, au Népal, plusieurs corps sont repêchés chaque jour dans la rivière. Trop abîmés, méconnaissables, les identifier est très compliqué. Alors les autorités lancent des opérations de collecte d'ADN en espérant faciliter les autopsies. Reportage sur place de Juliette Chénion.
Après plus d'une semaine sans nouvelles de son fils de 22 ans, parti travailler près de la frontière tibétaine, Kulmayata Mang, une paysanne, se présente au centre d'information de Bharatpur.
Quel est le nom de votre fils ?
Manas. Sous un barnum, elle remplit des formulaires, donne des photos, dépose ses empreintes et s'approche d'un homme en blouse blanche pour une prise de sang.
Voilà, serrez le poing. Nous ne pouvons pas encore vous dire quand cela sera fait, mais tous ces dons vont être envoyés à Katmandou. Si votre ADN correspond à un corps, vous serez prévenu.
Pour Kulmaya, venir ici, c'est accepter l'idée que son fils est mort. Son mari, Rajkumar, a perdu espoir.
S'il était vivant, je pense qu'il nous aurait déjà contactés.
une semaine difficile, vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives.
Principe actif.
Et j'aimerais pour commencer que vos applaudissements aillent à ceux qui ont beaucoup travaillé avec nous.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe actif, le mix des cultures. Thank you.